Arrivaient des hommes avec des caisses et des paquets, des cartouches, des grenades, du chocolat, du camembert, de grands couteaux de boucherie, des seaux d'alcool. Le commandant sort du bosquet de saules et marche dans l'herbe. Il vient de rencontrer un officier anglais nu-tête, le casque accroché à la ceinture. Le vieux général qui passait hier en automobile court à travers champs, ils l'attendent. Ils parlent tous les trois. L'officier anglais montre un coin du ciel. Du bout de sa canne, il se met à dessiner par terre. Le commandant et le général sont penchés sur ce qu'il dessine. Le général soulève son képi et se gratte le crâne à plein doigt. L'officier anglais a montré un coin du ciel. Au bout de son doigt tendu, on a vu fumer, là-bas au fond, la carapace sournoise d'une colline. On repart en colonne par un sur le bord de la route, le dos courbé, le fusil à la main. La halte devant un gros village étripé et qui perd ses boyaux dans les champs. Il est midi. Une femme court toute seule sur la route. De gros obus s'enragent à gauche contre un fragile moulin de bois. Ils éventrent la prairie jusqu'au fond noir des eaux et l'eau jaillit dans les éclats, toute luisante. Un cadavre de cheval bouche le ruisseau. On attend la nuit. Le capitaine est venu sur ses gros pieds jusque devant Olivier et la poule. Olivier a sa lettre blanche dans les doigts. Le capitaine s'est planté devant les deux hommes. « Garçon, il a dit, rien de plus n'est sorti de sa barbe par la bouche. Il les a regardés un bon moment. La nuit montait derrière lui avec toute sa nécessité. Puis son visage n'a plus été éclairé que par le jour métallique de la canonnade. Debout, et derrière lui on est entré sous le ciel de fer. Le Kemmel, un morceau de terre sans arbre chavire sous la fumée. Deux soldats anglais courent les bras pendants. « Ici, ici !» crie le lieutenant, ils font des signes en courant. Ils gueulent des mots, étouffés par les coups de ce canon revolver qui tire dans le clocher du Kemmel. Ils viennent de porter des grenades. « Non, pas par là !» ils disent, « On est tourné, en tirailleurs, à la sortie du village. Un obus souffle en écartant la nuit. » Là-dessous un val, des arbres, un parc, un étang, un château, puis la nuit la retombée de la terre. Les branches craquent, les ardoises chantent, l'étang gifle la terre de sa grosse main boueuse. « Creuse !» dit la poule. Il s'est couché près d'Olivier. Une barre de flamme et d'éclat frappe par la derrière sur le village et sur les champs, comme la barre d'un fléau. La nuit vole en paille de soleil. « Ils vont venir !» dit la poule. « Non !» dit le lieutenant couché la bouche dans la terre, les Anglais tiennent encore là devant. La voix du capitaine sort de la nuit. En avant on saute, une basse frappe dans les ventres. « Halte !» dit le lieutenant. « Liaison, voilà !» dit Barnou. Le capitaine, parti par là devant, avance va voir. Barnou revient en courant. « Mon lieutenant à 100 mètres, les Anglais, ils m'ont demandé French, j'ai dit oui, et de ce côté, rien, des fils de fer, on peut pas passer. Français, demande une voix dans l'ombre, c'est un officier anglais. Il explique lentement en cherchant ses mots à droite, 300 mètres, un bataillon français. Alors, en avant à droite. Le talus d'une route. Ici commandant Douce. Ici lieutenant Reynaud 6e compagnie mon commandant. Vous savez où on est? Non mon commandant. Enfin qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? À droite, devant, à gauche? Où sont les lignes? Ici, votre capitaine. Où est votre capitaine? Quelle heure est-il monsieur Reynaud? 9 heures mon commandant. On devait attaquer à 7 alors. Il y a des tranchées vides là devant, dit Barnou. Quoi? Que dit-il? Demande le commandant. « Eh bien, allons-y, c'est peut-être là. Le jour est venu tout d'un coup. Le mont Kemmel fume de tous les côtés comme une charbonnière. On est le long d'une route de saules déjà touchées de printemps, des bourgeons de belle amitié qui s'ouvrent. Les balles claquent dans les branches, la peau d'herbe est toute blessée. L'étang doucement s'en va, on le voit s'en aller dans les trous et puis s'enfoncer dans la terre. » Des vols d'obus passent, s'abattent, sautent, arrachent des branches, rugissent sous la terre, se vautrent dans la boue, puis tournent comme des toupies et restent là. On creuse à l'appel de trou à trou. On a tout le temps dans les jambes cet étang qui veut s'en aller, et qui coule tantôt d'ici, tantôt de là, sans savoir. On le repousse, on le frappe, il revient, il geint. On le frappe à coups de pelle. Un obus se plante là tout près. On se couche sur l'étang et tout de suite, il se met à lécher l'homme tout du long, des genoux à la ligure avec sa langue froide. Là-haut à 300 mètres, on voit le moulin. Un peu à gauche, un petit tas de pierres. C'était un pigeonnier, en voilà un, crie Jolivet. Il y a un homme dans ce tas de pierres, on vient de le voir se dresser, il s'est découvert jusqu'au ventre. La vache, donne un fusil que je le règle. L'homme apparaît, Jolivet tire, au bout d'un moment l'homme se montre encore. Jolivet tire, au bout d'un moment l'homme se montre encore. On a attaqué à la fusée comme une poignée de feuilles. Jolivet n'a pas crié, il a porté sa main à son front au moment où son casque sautait et il est tombé dans la direction du tas de pierres.